sur RFI.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur l'éventualité d'un troisième mandat pour le président guinéen Alpha Condé. Va-t-il réformer la constitution pour instaurer une nouvelle république et lui permettre ainsi de faire sauter le verrou qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels? En tout cas, cette semaine sur RFI, c'est Loud Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, a affirmé que les indices se multipliaient et qu'il n'était un secret pour personne que le président Condé voulait absolument un troisième mandat. Hier, également sur notre antenne, le porte-parole de la présidence, Kyrilli Bangoura, a assuré que cette question n'était pas une priorité pour Alpha Condé. Il a tout de même souligné, à la fin de son entretien, que le moment venu, c'est le peuple qui décidera. Personne ne peut décider à la place du peuple, a-t-il dit. Alors dites-nous si cette polémique vous semble justifiée. Que pensez-vous des spéculations de l'opposition? On en parle tout à l'heure. 33 9 693 693 70, et vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser à cette affaire qui fait grand bruit au Nigeria. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à toute l'équipe de la RFI.
Nous vous écoutons.
Bonjour à toute l'équipe de la RFI. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à Wanidara.
Merci de nous accueillir en Guinée. On vous écoute.
Oui, Juan, le président du Nigeria a suspendu le président de la Cour suprême à un mois de la présidentielle. À ce sujet, ma question est de savoir, l'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Le président de la Cour, pourquoi le président de la Cour suprême gêne-t-il autant le président Boiré?
Oui, c'est vrai que cette suspension surprend plus d'un observateur, d'autant que cette décision du président Boiré, qui est candidat à sa propre succession, intervient, vous le disiez Abdoul, à moins de 3 semaines de la présidentielle. Bonjour Julie Vandal.
Bonjour Juan, bonjour Abdoul.
Journaliste au service Afrique de RFI. Revenons tout de même, Julie, aux origines de cette affaire. Le juge Walter Onoghen, le président de la Cour suprême, le plus haut magistrat du pays, est accusé de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, en euros, en livres sterling, comme le requiert la loi dans les affaires pénales. À ce titre, il est donc poursuivi depuis le début du mois par le tribunal de conduite, du code de conduite. C'est une juridiction créée spécialement pour juger les questions d'éthique, et ce tribunal lui aurait demandé de se retirer de son poste le temps du procès, ce que l'intéressé aurait refusé. Du coup, eh bien, vendredi dernier, le président sortant l'a suspendu et à sa place, il a nommé un juge ordinaire, originaire comme lui du nord du pays. Et c'est vrai, Abdoul le disait, l'opposition dénonce une chasse aux sorcières. Pourquoi ce juge gêne-t-il autant le président Boiré?
Alors, il n'y a pas de déclaration publique du chef de l'État sortant en ce sens, mais c'est vrai que tout porte à croire que le juge Onoghen est un personnage extrêmement gênant. Alors d'abord par son poste, puisque c'est le plus haut magistrat du pays. Vous le disiez, il est à la tête de la Cour suprême, Cour qui est compétente pour régler en dernier recours les éventuels litiges liés au scrutin, et qui donc pourrait être amené à jouer un rôle clé dans les semaines à venir. Autre point, Walter Onoghen ne mâche pas ses mots. Il a dénoncé à plusieurs reprises la politisation des nominations dans le système judiciaire nigérian depuis notamment l'élection de Muhammadu Buhari à la présidence en 2015.
Et il faut dire, Julie Vandal, aussi que par le passé, le juge Onoghen n'a pas hésité à se positionner.
Oui, c'était en 2007 où Maru Yar'Adua avait remporté l'élection présidentielle. Le juge avait alors demandé l'annulation pure et simple du scrutin en raison de fraude. Mais à l'époque, eh bien, son point de vue était minoritaire au sein de la Cour suprême, ce qui ne lui avait pas permis d'avoir gain de cause. Quoi qu'il en soit, cela a laissé des traces. L'ex-président Olusegun Obasanjo, qui avait à l'époque appuyé Umaru Yar'Adua en 2007, eh bien, on sait quelque chose. L'ex-général a d'ailleurs affirmé dans la presse dimanche qu'Onoghen était suspendu parce qu'il refusait de tout mettre en œuvre pour que l'administration Buhari gagne ses élections coûte que coûte. Alors, vrai ou pas, le moment choisi pour ces accusations et la manière dont le juge de la Cour suprême a été suspendu suscite l'indignation. Vous le disiez, l'élection présidentielle se tient le 16 février prochain. Elle s'annonce très serrée. Et vendredi dernier, quand le juge Onoghen eh bien, a été suspendu. Il était sur le point de faire prêter serment au juge des tribunaux électoraux.
Ah oui, effectivement. Vous aviez une autre question, Abdoul ?
Oui, Juan. Le président Bouhari a besoin du Sénat pour le renvoyer définitivement. Quelles sont ses chances pour y arriver ?
Oui, puisque pour l'instant, le juge Onoghen n'est que suspendu, il n'a pas été renvoyé, limogé. Julie Vandal, le président a besoin du feu vert du Sénat.
Alors, ce n'est pas aussi simple en fait. D'après les constitutionnalistes avec lesquels je me suis entretenue, le président de la Cour suprême est nommé d'abord par le Conseil national judiciaire, le NJC, et cette nomination est ensuite approuvée par le Sénat aux 2/3 des voix. Ce qui veut dire qu'une suspension ou un renvoi d'un juge, eh bien, doit se dérouler de la même manière. En clair, la suspension du juge Onoghen est un véritable coup de force de la présidence. Le NJC, les représentants des magistrats, se sont d'ailleurs réunis en session extraordinaire mardi. Ils rendront, ont-ils dit, leur décision sous 7 jours ouvrables et tiendront une nouvelle session le 11 février. Mais il y a peu de chances, eh bien, que le juge Onoghen reprenne ses fonctions avant le scrutin présidentiel. Peu de chances aussi, selon les observateurs, eh bien, que cela pèse dans le vote des Nigériens, qui est déjà très marqué à 3 semaines du scrutin.
Et la décision du président Bouhari est également critiquée à l'étranger. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont exprimé leurs préoccupations après donc la suspension du juge Onoghen. Abdoul, on vous souhaite une belle journée en Guinée. Merci de nous écouter. Julie, bonne journée à vous. À très vite sur les antennes de RFI. Il est 9h17 ici à Paris. Vos questions nous arrivent. 33 9 693 693 70. Jonathan, bonjour. Jonathan, êtes-vous là ? Je vous vois sur mon écran, enfin je vous vois. Je vois votre nom affiché sur mon écran avec à côté le cadran rouge écrit en gros ON. Donc théoriquement, vous êtes au bout du fil. Que se passe-t-il ? Jonathan qui avait des questions sur la politique africaine de la Russie. Écoutez, Jonathan, on va vous retrouver, on va faire le maximum pour vous retrouver dans un instant, évidemment, en direct sur l'antenne de RFI. Sonia Rollet est à mes côtés. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Nous avons reçu un certain nombre de questions ces derniers jours concernant la République démocratique du Congo. Rousseau, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez des questions après la décision de la RDC d'extrader au Rwanda 2 cadres des FDLR, les rebelles Hutus rwandais.
Ah oui Juan, la RDC a extradé 2 chefs rebelles FDLR au Rwanda alors que l'Union africaine dirigée par le président rwandais Paul Kagame a suspendu sa visite à Kinshasa. Certains soupçonnent la RDC d'avoir négocié avec l'Union africaine pour qu'il annule sa visite à Kinshasa. Y a-t-il des preuves à ce sujet ?
Ah, y a-t-il eu un accord entre Kigali et Kinshasa ? Sonia Rollet, bonjour. Rebonjour. La question se pose. D'abord un mot pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette actualité. Qui sont ces 2 cadres des FDLR extradés il y a quelques jours ?
Alors, le plus connu, on va dire, du grand public, c'est Bazaïfis Laforge, parce qu'il a été pendant des années le porte-parole des FDLR, donc des rebelles Hutus rwandais qui sont opposés à Kigali et donc au président Paul Kagame. Et l'autre s'appelle Théophile Abega. Alors, il est moins connu, mais c'est un chef des renseignements militaires, en fait, des FDLR, d'un commandant du Nord Kivu qui s'appelle Omega. Donc, c'est vraiment un chef des renseignements, mais plutôt du Nord Kivu.
Et ils étaient recherchés depuis longtemps par le Rwanda ?
Ah, ils étaient recherchés depuis très longtemps. Enfin, en théorie, ils sont tous un petit peu recherchés, ces leaders des FDLR. Certains ont participé au génocide. Pour le cas de par exemple, Innocent Kanka, parce que c'est un peu son véritable nom à Bazaïfis Laforge, lui est effectivement aussi recherché pour les crimes commis par les FDLR aussi au Congo.
Alors revenons à la question de Rousseau, la sœur de Bazaïe, fils Laforge, craint que son frère n'ait servi de monnaie d'échange entre la RDC et le Rwanda.
Bah oui, parce que tout ça s'est passé en fait dans les heures qui ont suivi donc ce sommet de l'Union africaine. On voit à ce moment-là qu'il y a une sorte d'alignement de position entre les gouvernements rwandais et congolais qui devraient être au plus mal de leur relation, puisqu'on rappelle que à ce moment-là, le président Paul Kagame a réuni autour de lui un certain nombre de chefs d'État, une petite dizaine, et notamment les présidents des organisations sous-régionales, et qu'il sort un communiqué à ce moment-là sur le site de l'Union africaine qui demande tout simplement de suspendre en fait la proclamation des résultats définitifs et où il demande en fait la vérité des urnes. Alors, À ce moment-là, on sait que le gouvernement est très clair et dit qu'il va pas du tout attendre et que la Cour constitutionnelle va statuer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, une situation finalement tendue qui devrait être tendue entre le Rwanda et le Congo. On a aussi dit que le président Paul Kagame n'est pas venu à l'investiture, par exemple, de Félix Tshisekedi. Et on voit que les services de renseignement, eux, collaborent très bien. Et notamment que, donc, effectivement, ils décident de, donc, de extrader donc ces deux chefs FDLR qui avaient été déjà arrêtés depuis des semaines, donc qui étaient là, et le Rwanda demandait l'extradition. Mais on va voir aussi d'autres événements, d'autres arrestations, également une lettre envoyée par le ministre congolais de la Défense à la patronne de la MONUSCO qui demande un appui. On sait que les relations sont assez tendues,
oui, hein, effectivement,
entre la MONUSCO et le gouvernement. Là, il demande un appui pour lutter contre justement des FDLR qui sont en lien avec le général Kayumba Nyamwasa. Et c'est là où l'histoire se rejoint entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est que le même jour, donc quelques heures après ce sommet-là, le Rwanda va envoyer un mandat d'arrêt international à l'Afrique du Sud pour demander l'extradition du général Nyamwasa, donc qui est un opposant au président Paul Kagame, et qui est accusé donc par les Congolais d'être en lien avec les FDLR. C'est les mêmes accusations que font les Rwandais. Donc c'est vrai que cet alignement est étrange.
Oui, donc il y aurait eu, dit-on, négociations entre la RDC et le Rwanda.
En tout cas, ils se sont parlé très vite.
Vous annulez cette visite de la délégation de l'Union africaine, vous arrêtez de mettre des pressions en substance concernant la proclamation des résultats définitifs, et en échange, nous extradons ces deux cadres des FDLR. C'est ça, en tout cas, l'analyse de la famille.
Les gouvernements, les services de renseignement des deux pays démentent un quelconque arrangement. Par contre, ce que disent les diplomates de l'Union africaine, c'est étant donné que en fait ce qui avait été mis en avant par les voisins de la RDC, c'est le fait qu'il y ait des problèmes de sécurité pour eux. C'est vrai que là, c'était une manière de dire on essaie d'améliorer votre sécurité, par exemple au Rwanda.
Adrien a également des questions à vous poser. Il est à Nzérékoré. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez des questions également sur les mandats d'arrêt internationaux lancés par le Rwanda dont Sonia Rollet parlait à l'instant.
Oui. En effet, le Rwanda a émis des mandats d'arrêt contre certains opposants, dont le général Nyamwasa, en exil en Afrique du Sud. Sur ce, j'ai des questions. Pretoria aurait très mal pris ce mandat d'arrêt. Comment expliquer cela?
Alors, comment expliquer cela? Sonia Rollet, parmi les personnalités concernées par ces mandats d'arrêt, il y a donc le général Nyamwasa, vous en parliez tout à l'heure. En deux mots, c'est un ancien chef d'état-major, c'était un proche du président Kagame.
Voilà, c'est un proche du président Paul Kagame, qui a été victime d'une tentative d'assassinat en 2010. Il l'a formé avec un autre opposant qui, lui... a été assassiné Patrick Aragaya, ils ont formé le RNC, donc le Rwandan National Congress, qui est donc officiellement un parti politique en exil, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler au Rwanda, et également ils donc sont soupçonnés par le Rwanda de préparer une attaque en fait sur le Rwanda depuis le Congo. Et voilà, et c'est ce que disent aussi les renseignements congolais, notamment d'avoir un groupe armé, puis de mener des activités terroristes, c'est un peu ce qui est marqué dans le mandat d'arrêt d'ailleurs.
Et une source diplomatique africaine vous a confié que les autorités sud-africaines avaient très mal pris cette demande d'extradition, d'où la question d'Adrien, notre auditeur.
Bah, c'est un peu comme ça en fait qu'on a eu vent du mandat d'arrêt, puisque les questions qu'à l'époque je posais étaient plutôt d'ailleurs sur la lettre du ministre congolais de la Défense, et c'est vrai que bon, il y a eu une petite confusion, et on va parler de ce mandat d'arrêt-là, et notamment donc de ces relations qui sont très difficiles depuis des mois entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, notamment autour de la question des opposants politiques qui se trouvent en Afrique du Sud. Donc on en a parlé, il y a eu des tentatives d'assassinat, il y a eu aussi des assassinats contre ces opposants, et l'Afrique du Sud a clairement dit plusieurs fois qu'elle soupçonnait le régime de Paul Kagame d'être derrière ces tentatives d'assassinat. La tension s'est encore renforcée entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, notamment parce que la ministre sud-africaine des Affaires étrangères a soutenu la demande de dialogue, parce que c'est donc une opposition. Donc c'est cette opposition au Rwanda demande un dialogue avec Paul Kagame. Cette demande de dialogue a été soutenue par donc cette ministre sud-africaine, qui s'est retrouvée quand même traitée de tous les noms d'oiseaux dans la presse rwandaise. Et il y a eu même renvoi d'ambassadeurs et tensions diplomatiques renforcée. Donc tout ça intervient également alors que normalement le président Paul Kagame était avec le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et qu'il essayait de convaincre justement le président sud-africain de d'aller au Congo avec lui pour convaincre les Congolais de suspendre la proclamation des résultats. Et donc c'est vrai que toute cette situation est un petit peu étrange.
Voilà pour les coulisses donc de ces demandes d'extradition. Merci beaucoup Sonia Rollet d'être venue répondre à quelques auditeurs. Vous souhaitez peut-être réécouter l'analyse, les explications de Sonia Rollet. Rendez-vous dans quelques minutes sur notre application Pure Radio ou tout simplement sur le site RFI.fr. Nous avons retrouvé Jonathan. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de la RFI.
Ravi de voir quand la technologie fonctionne et que les réseaux téléphones passent bien. Vous avez des questions, Jonathan, sur la politique africaine de la Russie?
Oui. Concernant la présence russe.
Oui.
Moscou a annoncé la présence russe aux côtés des forces gouvernementales soudanaises. Alors, ma première question est de savoir, que savons-nous de ces instructeurs? Quel rôle joue-t-il au Soudan?
Ah, des instructeurs russes au Soudan. Rappelez-vous, au début du mois, la presse britannique affirmait que des mercenaires russophones étaient à Khartoum pour réprimer le mouvement de contestation. L'information avait été démentie par l'ambassade russe au Soudan. Et en début de semaine, en tout cas, le porte-parole du Kremlin a reconnu la présence d'instructeurs russes dans la capitale soudanaise. Bonjour Daniel Vallaud.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI à Moscou. Que savons-nous de ces instructeurs?
Alors écoutez, vous l'avez dit, Moscou a officiellement confirmé leur présence au Soudan, mais est resté flou sur le nombre de ces instructeurs et surtout sur leur appartenance ou non à des sociétés privées. Le ministère russe des Affaires étrangères a parlé d'instructeurs gouvernementaux et privés, sans entrer dans les détails et surtout sans mentionner le nom de Wagner, ce groupe de mercenaires russes présents dans de nombreux pays, notamment en Ukraine, en Syrie et selon certaines sources en République centrafricaine. Alors concernant le rôle de ces instructeurs, Moscou affirme qu'il s'agit uniquement de formation et dément formellement les informations qui ont fait état ces dernières semaines d'une participation de ces instructeurs ou de ces mercenaires à la répression des manifestations anti-gouvernementales qui ont lieu à Khartoum. Des informations, vous l'avez dit, qui émanent de l'opposition soudanaise, qui ont été relayés notamment par la presse britannique. Difficile d'en savoir plus. On peut mentionner tout de même le travail du collectif russe Conflict Intelligence Team, qui documente depuis des années la présence de soldats et de mercenaires russes à l'étranger. Eh bien, ce comité, ce collectif, a conclu à la présence d'au moins un camion appartenant au groupe Wagner à Khartoum, à proximité de l'une des manifestations qui s'est déroulée en décembre dernier dans la capitale soudanaise. En revanche, le collectif russe Conflict Intelligence Team reconnaît lui-même qu'il n'est pas capable de dire si ces mercenaires ou ces instructeurs ont réellement participé à la répression des manifestations.
Alors, on a perdu à nouveau Jonathan, je me fais son porte-parole, il nous dit le Soudan n'est pas le seul pays où la présence russe est significative, elle s'étend notamment en Centrafrique ou encore au Maghreb. Comment expliquer l'intérêt grandissant de la Russie en Afrique ?
Alors écoutez, il y a d'abord l'intérêt économique qui est évident. La Russie s'intéresse notamment aux ressources naturelles, particulièrement dans le secteur minier, dans plusieurs pays africains. La Russie s'intéresse également à l'Afrique en tant que débouché. Il y a eu des accords notamment dans le secteur de l'énergie et bien sûr, puisque la Russie est un grand vendeur d'armes, dans le secteur de l'armement. Voilà, potentiel économique, intérêt également sur la dimension politique, oui. Géopolitique, évidemment, vous le savez, la Russie est de retour. On ne cesse de le répéter sur la scène internationale. C'est le grand objectif, le grand dessein de Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir. Et cet objectif, eh bien, il passe par une présence de la Russie dans toutes les régions du monde où cela est possible. Et l'Afrique est bien sûr un continent qui offre beaucoup de possibilités à cette diplomatie conquérante, entre guillemets. Vladimir Poutine n'a pas pour l'habitude de négliger ses atouts et quand il peut s'en servir, il s'en sert. Et en Afrique, la Russie a énormément d'atouts parce que d'abord, elle peut servir d'alternative à la Chine, aux États-Unis, aux pays européens. Et puis, il y a l'histoire tout de même, cette relation très forte entre certains pays africains et l'époque soviétique. Alors, oui. Ça fait pas mal d'années, mais ça ça compte tout de même, toujours autant. Voilà, donc Moscou cherche des alliés partout où c'est possible. Il en cherche également en Afrique.
Sur le continent africain. Merci pour cette analyse, Daniel Valo.